Il est temps maintenant d'accueillir notre invité, Olivier Gonnet. Olivier est photographe animalier, amoureux de la nature et des grands fauves, qu'il photographie avec une approche naturaliste pour rendre compte sans artifice de la majesté et de la beauté de cette nature sauvage. Il a remporté en 2022 le prix Mammifère Sauvage du concours de Montier et ses photographies participent aux plus grands concours internationaux. Avec Olivier, je vous propose une interview plus contemplative à la découverte d'images rares, vous le verrez, de mammifères sauvages vivants dans leur habitat naturel et d'aller ensemble à la rencontre de ces grands fauves qui semblent si proches et pourtant si lointains. Olivier, salut.
Salut Ilan, salut tout le monde, tous les copains qui me regardent. Merci
Ouais.
d'être là et merci
Tu vas
de
bien?
m'interviewer. Ouais, super, super. Un peu stressé, mais ça va,
Ouais,
c'est
mais ça va
normal. J'ai
bien se
pas trop
passer.
l'habitude de faire ça, mais ça va bien se passer. Donc
Bon.
voilà, ben merci en tout cas, Ilan.
Bon, mais en tout cas, on est ravis de t'accueillir. Je dis on, Sylvain et moi. Écoute, on va commencer simplement
Ouais, ok.
avec une image.
Ouais.
Une image que l'on va montrer là. C'est l'image qui a remporté le prix
Ouais.
de Montier, qui a contribué à ta renommée récente. Est-ce que tu peux nous
Ouais.
en parler?
Alors, oui, bien sûr. Alors, déjà, bon, c'est une image que j'ai réalisée en novembre 2018 au Kenya dans la réserve du Masai Mara. Donc, pour les comment, l'histoire, comment ça s'est passé? Ben, en fait, on était dans le 4x4, hein, parce que c'est en safari, bien sûr, évidemment. Donc, on part dans un 4x4. Le guide, au loin, voit une scène un peu particulière. Il nous dit Lion, Lion and Buffalo. Et on dit, bon, ben, OK, qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas encore bien vu ce qui se passait. On se rapproche de la scène. On voit cette lionne sur ce tronc. Hein, et on comprend qu'il se passe quelque chose. Alors, bon, c'est une scène qui est pas rare au Kenya. Elle arrive, hein, bon. Sauf que, bon, il faut être là pour la photographie, hein. Mais en fait, c'est le buffle qui veut venir tuer les bébés lions
C'est ça.
avant que les lions viennent tuer le buffle. Voilà. C'est une stratégie en fait des buffles.
Ouais. C'est une
Et
stratégie de protection par anticipation, c'est ça?
c'est ça.
Ouais.
En fait, il vient voilà les tuer avant qu'ils soient tués lui
D'accord.
voilà. Donc en fait là. Tu veux des trucs un peu techniques, je pourrais t'en dire, mais bon, je pense que c'est pas le sujet du truc. Mais
Ouais.
je suis au 600 mm, voilà, je vais quand même en dire un peu. Je suis au 600 mm.
Mmh.
Comme tu vois la photo, elle est cadrée comme ça, c'est-à-dire que je ne l'ai pas recroppée d'un millimètre. Elle est normale là, voilà, comme je l'ai
Mmh.
prise. Donc j'ai essayé de pas couper les pattes du buffle. Et de temps en temps, la lionne, avec sa queue, ben, elle bougeait un peu la queue parce qu'elle se dressait sur le tronc
Mmh.
pour être un peu plus menaçante. Et de temps en temps, j'ai coupé la queue, mais voilà. Donc, j'ai réussi à faire deux ou trois photos quand même.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est
J'allais te demander,
intéressant.
je... pardon.
Oui,
J'allais
dis-moi,
te
dis-moi.
demander justement combien de temps avait duré la scène.
Ah, la scène, elle a duré allez, 5 minutes parce que
Ouais.
c'était la fin de journée. On était au terme du safari. On rentrait vers le camp et là, voilà, pour encore être dans le technique, je suis à 16 000 ISO avec un 600 mm à 1/320. Donc, je peux pas faire mieux. Juste après, la nuit tombée, c'était fini. C'est bon. Et après, ensuite, il s'est avéré que le buffle est parti, heureusement,
Oui,
parce
j'allais
que
te
c'est une
demander la
lionne.
fin de l'histoire.
Ouais, non, la fin est heureuse.
Ouais.
Yaya, parce qu'elle s'appelle Yaya, cette lionne, a réussi à intimider le buffle et a réussi à défendre sa progéniture. Voilà. Voilà.
D'accord.
Donc, c'est une photo qui est effectivement marquante. Hein. C'est une scène, en fait. Hein. C'est plus une scène. Voilà. Il y en a beaucoup qui disent, on dirait un tableau. Et c'est vrai. Hein,
Oui.
la façon dont elle est composée, ben, elle raconte une scène. Voilà. C'est pas une scène d'action exceptionnelle, mais voilà, elle est là et elle raconte la dure vie des lions, même
Ouais.
si c'est le roi de la savane. Eh ben, pas tout le temps. Des fois, il arrive à avoir ses prédateurs qui viennent, enfin, ses proies plutôt, qui viennent l'intimider. Voilà.
Et justement, tu en parlais, tu es allé, toi, une dizaine de fois en Afrique, en Namibie
Ouais.
et au Kenya pour photographier dans ces grandes réserves naturelles. Est-ce que tu
Ouais.
peux nous dire quelques mots peut-être sur l'importance de la phase de préparation, par exemple. Est-ce que tu te documentes beaucoup en amont sur le pays ou sur les animaux que tu vas photographier?
En fait, pour le Kenya, maintenant, à force, je commence à connaître les animaux qu'il y a et tout. Pour les autres pays, ouais, comme la Namibie, oui, j'ai beaucoup cherché pour savoir où est-ce qu'on pouvait les rencontrer, surtout parce que en Namibie, c'est plus vaste. On n'est pas sûr de trouver à chaque fois des animaux. Donc oui, je me suis renseigné plus pour les localiser, on va dire, pour savoir dans
D'accord.
quel parc on pouvait les voir. Mais après, c'est surtout sur la connaissance de l'animal, en fait, hein. Voilà, on essaie ça à force avec l'expérience. Je sais qu'un lion va pouvoir faire telle ou telle scène. Mais voilà, c'est plus sur la connaissance du terrain, en fait, que sur la préparation pour connaître l'animal. Après, oui, si c'est des animaux particuliers, je vais un peu me documenter. Mais bon, c'est plus sur le terrain, en fait, voilà.
Ouais. Et quand tu pars, tu as une idée peut-être des animaux que tu souhaites photographier. Est-ce que tu choisis ton matériel photo, tu disais un 600 mm, en fonction des animaux que tu souhaites photographier, ou au contraire, tu vas adapter tes prises de vue, en fonction du matériel dont tu disposes?
Alors oui, ça c'est le plus important, c'est la phase pour sélectionner le matériel.
Ouais.
En fonction où on va plus ou moins prendre du matériel. Bon là, c'était on va dire le safari le plus complet, hein, parce que j'aime bien partir avec tout. Moi, je pars avec beaucoup plus que je préfère partir avec plus que moins. Donc c'est le sac qui fait souvent plus de 17 kilos, hein. Alors bon, voilà. Donc en fait, en fonction selon où on part. Alors bon, au Kenya, la proximité avec les animaux, ben, on peut avoir des lions qui nous passent à côté de la voiture, donc ils sont pas forcément loin. Mais par contre, mon style photographique va plutôt s'orienter vers des longues focales pour éviter l'effet plongée. Mais ça, on en reparlera après avec les techniques que j'utilise. Sinon, voilà, si je pars, par exemple, ouais, en Namibie, je sais que les animaux vont être plus lointains, donc je prendrai un 600. Sinon, selon la forêt, il faudra avoir un 408 qui est plus lumineux. Mais bon, après, j'ai pas un 408 et un 600 F4 à chaque fois, hein. On va dire, je vends et j'essaye d'avoir le bon objectif au bon moment. Voilà.
Ouais, je comprends l'idée. Donc là, on voit ton matériel qui est effectivement
Ouais.
impressionnant.
Ah,
On en reparlera peut-être dans le cours de l'interview. Toujours sur la phase de préparation, j'ai lu récemment un ouvrage paru aux éditions Erol de David Yarrow, qui est donc notamment un photographe animalier, qui écrivait « Faites vos devoirs, ayez une idée de ce que vous voulez faire avant de sortir de chez vous. Sachez quel type d'image vous visez, même si vous finissez par changer de voie. » Est-ce que toi, avant de partir, tu as une idée précise de scène que tu aimerais photographier, ou est-ce que véritablement on ne peut pas prévoir et tu te laisses guider et improvises?
Alors, on peut pas vraiment prévoir une scène, c'est évident, hein. La scène que j'ai eue là avec le buffle et les lions, même dans mes pires rêves, fais mes meilleurs rêves, je l'avais pas
Oui, les
imaginé.
meilleurs, ouais.
Mais voilà, mais en fait, avec les réseaux sociaux, maintenant, on sait plus ou moins ce qu'on peut rencontrer, donc notamment des bébés lions, des bébés léos, voilà, s'il y a des rhinos qui sont dans la région où on va aller, donc on va peut-être pouvoir s'imaginer de faire des photos, mais c'est la nature qui va choisir. Et c'est ça qui fait le charme, hein, de la photo, parce que si on savait qu'on allait photographier exactement ce qu'on avait dans la tête, ben, il y aurait plus de charme. Donc non, on peut pas vraiment prévoir. On peut peut-être anticiper sur le moment quand on va voir une scène, mais prévoir de réaliser une photo. Alors, c'est pas tout le temps vrai. J'ai quand même réalisé une photo que j'avais imaginée bien avant de partir. Mais je t'en parlerai plus tard, c'est une autre
Ouais,
photo.
je pense
Voilà.
qu'on la voit à la fin
Tu
de
vois de
l'émission,
quoi?
normalement.
Voilà. Donc je t'en parlerai, mais celle-là, oui. À part celle-là, le reste, je laisse la nature choisir et me guider.
D'accord. On va en dire deux mots quand même. Toi, tu photographies des animaux sauvages, tu l'as dit, dans des réserves naturelles. C'est une
Ouais.
pratique, j'imagine, qui est quand même extrêmement encadrée. On ne peut pas faire n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des bases éthiques, par exemple, qui dictent cette pratique?
Alors, en safari, notamment au Kenya, on est dans une réserve, un parc, hein, donc on peut pas faire ce qu'on veut. Déjà, on est guidé par un guide Maasai, hein, un conducteur qui va lui avoir des règles hein, qu'il doit respecter par rapport au parc. Donc, c'est évident qu'on ne peut pas descendre de la voiture, qu'on ne peut pas faire de hors-piste, on ne peut pas interagir avec les animaux. On ne va pas s'amuser à essayer de caresser un lion quand il va passer près de la voiture. Hein. Tout ça, c'est des règles que tout le monde connaît, en fait. Hein. Il y a des trucs à respecter. Et il y a de toute manière des rangers qui vont venir faire respecter cette loi. Et on est toujours dans un parc, on peut pas faire ce qu'on veut, c'est évident, voilà, ça c'est sûr.
C'est une pratique qui est encadrée.
Voilà, et c'est bien comme ça, hein, parce qu'il faudrait bien pas sûr que chacun fasse n'importe quoi, parce que sinon l'être humain il est comme ça, s'il a pas de limite, il va à chaque fois essayer d'avancer, faire n'importe quoi. Et là, voilà, donc c'est pas plus mal. Après, voilà, ça reste des animaux sauvages, ça reste c'est pas des parcs avec des barrières, hein, c'est pas des parcs avec ils sont pas dans des cages. Hein.
Ouais,
donc, il peut se passer un peu des trucs qu'on n'avait pas envisagé hein, pour les lions, mais le guide est là pour justement faire respecter ce truc et il est vigilant sur ça parce qu'il connaît très très bien les animaux. Voilà.
Ouais. Je pense que c'était important de dire que cette pratique quand même est encadrée, que ces animaux sont en réserve naturelle, ils sont en liberté, et que ces réserves peut-être aussi survivent, financièrement parlant en tout cas, grâce aussi à ces activités photographiques ou de visite, pour peu qu'elles soient évidemment respectueuses et de l'environnement et de la tranquillité animale. Le but, c'est d'interférer le moins possible avec l'animal.
Tout à fait, tout à fait. Voilà, il faut surtout pas commencer, alors il y en a qui le font, hein. On a vu des trucs sur les réseaux sociaux, des gens qui commençaient à faire n'importe quoi. Du coup, il y a des pratiques qui sont devenues interdites. Hein. On en parle un peu plus tard, la planche, à cause de certains débordements, maintenant, elle est devenue interdite. Mais bon, c'est pas plus mal, c'est pour respecter les animaux et au final, il vaut mieux, quoi. Voilà.
Bien sûr. Alors, on va parler maintenant de l'animal dans son environnement. Un point primordial pour toi, c'est de photographier ces grands mammifères en liberté, dans leur habitat naturel. On va voir une image. Par exemple, sur cette image, il me semble que ce sont des oryx dans un paysage qui est caractéristique de leur habitat. C'est important pour toi de photographier l'animal et qu'on puisse identifier son habitat.
Ouais, c'est très important. Pour moi, il faut arriver à mettre l'animal dans son environnement. Là, il s'agit d'oryx. Son surnom, c'est l'antilope du désert. Donc, pour moi, il fallait qu'il soit sur un désert ou avec le désert en déco. Voilà. Parce que une belle photo, pour moi, doit être composée. Alors, c'est pas qu'un sujet net. Hein, c'est aussi remettre le sujet dans son décor. Et en plus de ça, là, les oryx, ils ont un ton un peu rose aussi, comme la dune. Donc c'est presque du ton sur ton. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que bon, après c'est pas tout le temps évident hein, d'arriver à réussir ces trucs. Mais si on arrive à aligner et à faire rentrer le sujet, l'animal dans son décor, ben on a réussi quoi. Voilà. Enfin ouais. Pour moi, c'est mon style de photo. Après, voilà, il y en a d'autres qui ont d'autres styles, hein. Mais moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est plus des photos naturalistes, on va dire, en fait. Voilà.
Ouais. Oui, on le voit bien. Et pour rendre la majesté de l'animal dans son environnement, sans artifice, c'est vrai qu'on a une belle harmonie de tonalité et des couleurs sur cette image. Là, tu es à quelle distance? Est-ce que les oryx t'avaient vu? Tous les regards
alors, sont vers toi? Là, oui, ils m'ont vu parce que j'étais pas caché, penché dans la voiture. Hein, c'est en Namibie, ça. Mais là, je dois être à 50 mètres, je pense, des oryx. Je suis avec le 600 aussi encore.
Ouais.
Et par contre, voilà, j'ai vraiment attendu qu'ils passent devant ces dunes. Mais ils sont pas effrayés. Hein, ils m'ont juste regardé. Et puis après, ils ont repris leur route. Et puis, ils ont passé les dunes. Et puis, ils étaient plus dans le décor, quoi.
Donc, le moment n'a duré qu'un temps.
Ah, ça a duré rien du tout. C'est pour ça que c'est hyper éphémère. Il faut être là. En fait, il faut savoir anticiper la photo et il faut pas la louper parce que ça dure rien. Et puis, un quart de seconde après, ils broutaient et puis ils partaient, quoi. Voilà.
Ouais. Et donc, tu disais, un des grands enjeux pour toi, c'est de photographier cet animal en liberté dans son environnement. Et les lumières, justement sont une partie importante de l'environnement. J'aimerais que tu nous parles justement de ces lumières, peut-être autour de quelques-unes de tes images qui les mettent particulièrement bien en valeur. Là, on a, pareil, dans l'harmonie des contrastes, et des lumières et des tonalités. Ici, on a un lion dans une lumière dorée magnifique. C'est une lumière du matin. Quelle est l'histoire de cette prise de vue?
Alors, en fait, c'est au petit matin. Hein, donc, voilà. De toute manière, si la lumière est belle, si on voit un coucher du soleil, on va dire waouh, voilà. Donc, si on arrive à mettre un sujet, un animal dans une belle lumière, il y aura toujours cet effet waouh, voilà. Bon, là, la particularité de cette photo, c'est que le lion est en contre-jour. La photo a été prise en contre-jour pour faire ressortir cet effet doré, cet effet golden light. Donc, voilà, ce qu'il faut, là, c'est à nous un peu de peut-être, on va dire, aiguiller le guide à ce qu'il réalise pas pour qu'il nous mette dans cette bonne situation. Hein. Donc là, on lui a dit clairement au guide, non, reste à contre-jour pour qu'on puisse, parce qu'on savait qu'on voulait faire cet effet. Donc voilà, c'est de toute façon le matin à la belle lumière. S'il y a un sujet, c'est banco quoi. C'est facile on va dire. Voilà, c'est facile. C'est pas le plus compliqué.
D'ailleurs, quand on photographie en paysage, on va privilégier peut-être les petites heures du jour ou les dernières heures à la tombée de la nuit. C'est la même chose quand tu fais ces voyages. Tu photographies plutôt aux extrémités de la journée, le matin et le soir.
Ouais, on essaye voilà d'être là au bon moment. Bon là, je pars avec une structure, un tour opérateur qui est spécialement fait pour les photographes animaliers exigeants, on va dire, ou photographes animaliers tout court. Donc il sait très bien que voilà, on doit partir tôt le matin, donc on part avant le lever du jour et on essaye d'avoir le sujet, enfin de trouver le sujet assez rapidement pour le début de la journée. Mais on a toujours quelque chose à se mettre sous la dent, ou un éléphant à contre-jour avec un soleil, ou un lion, ou des guépards. Enfin, on essaie de trouver. Et puis après, de toute manière, le reste de la matinée, on continue à chercher pour, parce que c'est quand même, il n'y a pas que la photo. Quand on se retrouve dans ce décor, on en profite au maximum. C'est tellement beau de voir ces animaux sauvages vivre leur vie tranquille. Donc, on essaye de faire les plus belles photos au début, c'est vrai, hein, parce qu'après la lumière, elle devient vite dure en Afrique. Mais bon, c'est pas grave, on en profite, on en prend plein les yeux et puis on kiffe, quoi, voilà.
Puis j'imagine que pour les fauves, en tout cas, ils sont plus actifs, ou en tout cas, c'est les moments en début de journée ou en fin de journée où ils sont plus actifs, que peut-être ils dorment plus en milieu de journée. Ceci dit, je dis ça, mais ma connaissance des fauves n'est pas extrêmement...
Non, mais tu as raison. Non, mais c'est ça. Extrêmement le riche. Lion, c'est un animal qui dort beaucoup. Ouais. Donc, souvent, tu le vois coucher les quatre pattes en l'air, en train de dormir. Donc, mais c'est pas grave. Voilà, il peut y avoir des bébés lionceaux qui vont venir embêter leur papa. Il peut y avoir plein de trucs. Donc, même s'il n'y a plus la lumière, même si on sait qu'on ne fera pas la photo du siècle, on en profite, on en prend plein les yeux. Et puis ça permet aussi d'anticiper sur les autres photos, parce que si on trouve un léopard, on va se dire bon, mais on reviendra plus tard, on essaiera de le photographier à la belle lumière. Voilà, il y a toute une stratégie derrière un safari en fait, surtout pour les safaris photo.
Alors, en parlant de belles lumières, puisqu'on est dans cette thématique, la scène ici est impressionnante à plus d'un titre. D'une part, parce qu'il s'agit de rhinocéros noirs et apparemment ils sont devenus très rares. D'autre part, parce que le moment de la prise de vue, lui, est assez extraordinaire.
Ben alors là, il y a eu plusieurs éléments qui se sont conjugués. Bon, déjà, de voir deux rhinos, moi j'avais deux rhinos noirs, hein, donc comme tu disais très justement, ils sont en voie de disparition, il n'y en a quasiment plus. Donc là, deux sur la photo, enfin une mère et un petit. Et une belle lumière, donc deuxième élément. Et troisième élément, ces oiseaux qui volaient autour là, du point d'eau, qui forment un bokeh un peu enchanté. Là, on ne sait pas ce qui se passe vraiment, mais bon, ça apporte un plus à la photo. Bon, c'est on va dire, un alignement de trucs qui font que la photo, il ressort quelque chose de cette image. Bon, ce n'est pas une photo de fou, mais il y a quelque chose. On voit l'attitude des rhinos qui est aussi sympa. Et puis, voilà. Bon, ça, c'est une photo qui a été faite en Namibie, autour d'un point d'eau. au parc des Tocha, voilà.
Ouais. Et tu le disais, là, c'est des animaux assez rares. Tu le disais aussi tout à l'heure, t'as beau être dans un parc naturel, tu peux pas avoir l'assurance de trouver un animal en particulier, même en restant 2 semaines sur place. Il y a quand même une part de pas de chance, mais tu parlais d'alignement des astres. Il faut qu'il y ait des bons alignements aussi.
Ah non, mais carrément, je veux dire, voilà, on peut pas le prévoir, ça, malheureusement. Alors, on peut essayer de l'anticiper, d'essayer de forcer la chance, à chercher de partout, voilà, pour trouver les animaux, parce que faut pas croire, mais en Afrique, c'est pas facile de trouver, c'est pas tout le temps facile de trouver des léopards, des lions et tout ça, hein. Souvent, il y a des journées où on passe la journée à chercher les animaux et on trouve pas. Et voilà. Par contre, quand il se passe la scène, il faut être là ou l'anticiper. Là, comme on voit sur ce genre de photo, c'est un classique, hein, pour les photographes animaliers qui sont présents peut-être sur la chaîne là aujourd'hui. Ils savent très bien cette photo, ils la connaissent. Tout le monde veut la faire. C'est justement quand le soleil se lève, aligner un gros mammifère, donc là l'éléphant, qui va s'aligner avec ce lever de soleil et avec les couleurs orange, ça fait une belle silhouette.
Ah bah oui.
Et voilà. Donc après, voilà, ça c'est avec l'expérience, les habitudes qu'on va au moins pouvoir anticiper ce genre de scène. C'est les guides, hein, ils connaissent très bien l'exigence des photographes à force, et ils savent très bien que le matin on veut tous faire cette photo, donc ils vont faire au mieux pour qu'on arrive à faire cette photo, et ils vont se placer au millimètre, parce que voilà, la photo au final, on est quand même bridé par le fait d'être dans une voiture, et je pense que 50% de la photo appartient aussi au guide, faut le reconnaître. Moi, je leur tire mon chapeau, parce que c'est grâce aussi à eux qu'on arrive à faire de belles images.
Ouais, voilà. C'est une création d'équipe, du coup, vraiment là.
Tout à fait.
Voilà. Une petite question un peu naïve. On parlait des lumières. Est-ce que tu peux travailler la lumière, avoir des lumières additionnelles? On a vu qu'il y avait dans ton barda des flashs déportés. Tu les utilises à des moments sur le terrain, ou que à quoi ils servent?
Alors, pour l'Afrique, là, le flash, non. Le soir, un peu, parce que le soir, autour du camp, il peut y avoir des animaux qui tournent autour du camp, des genettes, des galagos, des hyènes, tout ça. Donc oui, on peut s'amuser autour du camp avec le flash, mais quand on se trouve en game drive, en safari, non, c'est pas pour... Enfin,
d'accord.
Il y en a qui le font, parce que ils arrivent à placer des flashs un peu à droite à gauche, mais bon, c'est hyper compliqué, hein. Là, ça demande une organisation un peu plus élevée, là. Moi, je prétends pas avoir ce niveau-là. Mais, oui, on peut le faire avec les pièges photo. Voilà. Ouais. Si on veut mettre un piège photo, évidemment, pour photographier les animaux nocturnes, donc on peut utiliser les flashs. Bon, moi, en ce qui me concerne, là, c'est plus pour les photos autour du camp, voilà. Et il m'arrive d'utiliser le flash, mais c'est pas dans la journée, en tout cas.
Bon, voilà. Il y avait Laurent Banneux qui, sur le chat, posait la question, donc effectivement, je la remontais. Sur l'idée d'aller à la rencontre de l'animal dans son habitat naturel. On a parlé des lumières. Il y a aussi montré comment l'animal vit et arriver à saisir justement des scènes qui sont caractéristiques de son quotidien, ou en tout cas qui sont emblématiques de la vie là-bas. Là, on a une traversée de gnous d'une rivière. Il y en a des centaines. C'est un troupeau extrêmement impressionnant.
Alors ça fait partie des, quand on est photographe animalier, des spectacles à voir, j'ai envie de dire, parce que la grande migration de gnous, la grande migration de gnous, c'est quoi? C'est, je crois, l'équivalent de 2 millions de gnous qui font une boucle, qui vont chercher l'herbe fraîche au fur et à mesure, donc ils font une boucle. Et ils arrivent de la Tanzanie, ils traversent la rivière Mara. Ça, c'est la rivière Mara, c'est la frontière entre la Tanzanie et le Kenya. Ils vont traverser deux fois, donc une fois l'aller, une fois retour, la rivière. C'est un spectacle à voir. Pourquoi? Parce que déjà, ils se regroupent, ils attendent d'être plusieurs pour pouvoir traverser. Ils ne font pas seuls, ils attendent d'être plusieurs. Et quand tu traverses, c'est énorme, c'est impressionnant ce spectacle. Ça veut dire un brouhaha énorme.
Ouais, je vais te demander, ça doit faire du
Ouais.
bruit, effectivement.
Ah, c'est énorme, c'est énorme. C'est voilà, là on voit un peu de fumée. Alors bon, ça met du temps, hein, parce que c'est pas un... Enfin, le gnou, il a la tendance, habitude de mettre du temps en fait avant d'y aller, de se jeter, parce qu'il a peur, hein. Donc on va dire il y en a toujours un plus courageux que les autres ou plus fou pour se jeter, et dès que le premier s'est jeté, les autres vont le suivre, et c'est là que ils veulent tous y aller en même temps. Donc ça fait un bruit de fou, et puis tous les gnous vont traverser, et on va voir évidemment tous les prédateurs qui sont autour, qui attendent ça, donc les
Ah
crocos,
bah
les lions,
oui, ouais.
qui attendent, voilà. Et donc il y a toujours voilà, des scènes de fou, hein. Des crocos
Ouais.
qui viennent croquer des gnous ou des zèbres, hein, parce qu'il y a aussi des zèbres qui sont dans ce truc. Mais voilà, c'est un spectacle à voir. Bon,
Ouais. Et là,
il faut le voir. Voilà, dis-moi.
tu me parlais aussi
Ouais.
du hors-cadre, et c'est vrai que je
Ouais.
reprends aussi une remarque qui nous est faite sur le chat. Là,
Ouais.
effectivement, dans des zones naturelles comme ça, tu n'as pas le droit de toute façon d'être à pied. Les seules façons de faire vivre ces parcs en les visitant, c'est d'être drivé, d'être conduit par un chauffeur
Ouais.
spécialisé qui lui va savoir exactement où on peut aller sans déranger trop
C'est
l'animal.
ça.
C'est bien ça.
C'est
Ouais.
ça.
Et
C'est
là,
lui
sur une
qui
scène
est...
comme ça, si on
Ouais.
prend le hors-cadre un petit peu, il y a plusieurs voitures effectivement
Voilà.
qui vont
Alors,
photographier.
ça, le hic de ce spectacle, c'est justement, ben, comme tout spectacle, hein, tout le monde a envie de le voir, hein. Donc, évidemment, là, on ne le voit pas sur la photo, mais il y a plusieurs 4x4 avec nous, hein. Bon, ils sont nombreux. Mais voilà, ça fait partie du truc, hein. Il faut le prendre en considération, hein. Quand on va voir comment un artiste un concert, on sait qu'il va y avoir du monde, hein. Ben là c'est
Oui,
pareil, hein.
et de toute façon, j'imagine que pour
Voilà.
photographier des animaux sauvages en liberté, en fait, pour photographier des animaux sauvages, maintenant, où on va dans un zoo et ils sont pas en liberté, ou effectivement, c'est dans des réserves comme ça où ils sont
C'est ça.
sauvegardés en liberté, mais il y a des contraintes qui sont inhérentes
C'est ça.
à l'ensemble.
À
Ouais.
l'ensemble, il faut le prendre en considération. Après,
Bien sûr.
tout le monde se doute que quand on va en safari, on va pas être seul dans la
Ouais.
savane. Bon, voilà. Donc, pour ce genre de spectacle, c'est évident, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Hein, bon, c'est un beau spectacle. Donc, voilà. Mais bon, moi, je critique pas, je crache pas dans la soupe, parce que je suis dans un 4x4 moi aussi.
Ouais, bien sûr.
Et j'en profite aussi
Ouais.
de ce spectacle. Et voilà, il faut juste se dire que voilà, il peut y avoir du monde,
Ouais.
et puis c'est comme ça, quoi, voilà.
Ouais. Et en tout cas, ça permet d'en témoigner et on va voir d'autres scènes de
Ouais.
vie qui sont extrêmement impressionnantes. Quand on parle de grands fauves,
Ouais.
évidemment, il y a des scènes qui sont des scènes de chasse. Moi, j'ai été extrêmement impressionné par. Alors, la scène, peut-être là plus que l'image, parce que des fois, effectivement, il y a ce duel entre une scène qui est extrêmement impressionnante et qu'il faut rendre. Là, on a quand même un lion qui est en train de boulotter un hippopotame. Je croyais que c'était un animal très dangereux, l'hippopotame, moi.
Alors ouais, là c'est un petit hippopotame, hein.
Ouais,
Bon,
écoute.
oui, il est dangereux s'il est dans, enfin,
Ouais.
si se retrouve dans, enfin, entre, il peut, c'est le, c'est alors l'hippopotame, c'est l'animal qui fait le plus de d'accidents, hein, on va dire,
Oui.
pour l'homme,
Ouais.
parce qu'il est extrêmement dangereux. Si on se retrouve entre lui et son point d'eau, il nous charge, il nous tue, il nous envoie en l'air. Ça c'est voilà. Et le lion, bon, ben le lion, bon, aussi tout le monde le connaît, mais bon, pour cette image, en fait, l'hippo était déjà mort là. C'est pas une vraie scène de chasse. Il le
D'accord.
traînait, en fait, il le traînait. Voilà, je vais pas vous
Ouais.
mentir. Donc j'ai pas suivi, je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais là il était déjà mort. Il le
Ouais.
tirait pour le protéger des je crois, là, il y avait un chacal qui rôdait, et des
Ouais.
hyènes qui voulaient lui prendre son butin. Donc, il essayait de le mettre en sécurité pour le manger un peu plus loin, quoi. Voilà.
Ouais.
Mais c'est évident que les scènes de chasse, ça fait partie des très beaux spectacles aussi qu'on peut voir dans la
Écoute,
savane.
on va en voir
Oh.
une seconde qui enfin que je trouve très très réussi là en plus. Donc on a un guépard et un guépard d'eau. Alors je sais pas ce qu'ils ont attrapé.
Alors ça c'est un impala, hein, c'est une maman et son guépard. Alors ils étaient deux les petits guépards, sauf que bon, sur la photo il est pas. Voilà, c'est une scène de vie dans la savane, hein, donc je fais pas que les photos au 600, là c'est au 100-500, hein, c'est une photo que il y a plus de profondeur de champ, même si les animaux sont floutés quand même, mais on les voit plus, donc derrière on voit une girafe, un zèbre. Voilà.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai été étonné par la vie en fait sur cette photo, parce qu'effectivement, on a un deuxième plan avec un zèbre, un troisième plan avec une girafe qui regarde la scène. Voilà, la composition, je trouve, est très réussie. Et en plus, on a quand même une richesse de détails sur le dos du guépard, peut-être parce qu'il est assez jeune. On voit les poils hérissés en
crinière. Ouais, quand ils sont petits, ils ont encore une crinière. Et là, c'est un tout petit. Hein. Donc, du coup, il a encore sa crinière. Mais voilà, c'est pour ça que j'utilise pas que le 600 qui, lui, a tendance à réduire considérablement la profondeur de champ. Je suis aussi un zoom qui apporte un petit plus aussi à la scène. Bon, voilà, là, c'était une scène. Bon, par contre, je suis relativement bas là. Hein. Je suis avec le 100-500. Il faut savoir bien l'utiliser et là j'essaye d'être le plus bas possible quand j'utilise le zoom, parce que sinon il a tendance à trop marquer le fond et ça peut être disgracieux. Là ça va, ça passait. Je trouvais que le décor avait son importance. Voilà.
Ouais, le décor a son importance, la scène du coup, et il y a une belle composition. On va les suivre. Alors je sais pas si c'est eux qu'on va suivre, mais en tout cas on va retrouver dans les scènes de vie. Il y a des scènes plus tendres, parce que parfois les scènes de chasse, c'est peut-être dur d'ailleurs à photographier, c'est des scènes qui sont quand même assez âpres. Là on a une scène beaucoup plus tendre avec un guépard, une guéparde et un guépard d'eau. Là c'est un instant de complicité, il y en a aussi.
Ouais, ben voilà, là sur il n'y a pas que les scènes de chasse, même si c'est très beau, une scène de chasse, surtout les lionnes, elles ont toujours une stratégie. Elles arrivent à communiquer entre elles, je sais pas par quel moyen, mais elles arrivent à faire une stratégie pour chasser. Il y a toujours une lionne qui va diriger la chasse. Les autres, elles vont se préparer pour anticiper la chasse. On dirait que c'est je sais pas comment elles font, et c'est toujours intéressant. Mais il y a pas que ça, voilà. Il y a les scènes aussi plus tendres, entre un bébé guépard et une mère guépard. Voilà, il faut tout montrer, aussi bien le moins drôle, hein, parce qu'une chasse c'est moins drôle que ça, mais c'est tout aussi beau, quoi. Voilà, c'est un peu ma touche. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est montrer les animaux comme ils vivent, en fait. Voilà, c'est des scènes de comportement. Voilà, tout simplement.
Et on a montré, effectivement, on a parlé de ces images où tu saisis l'animal dans son environnement, dans ses belles lumières, dans ses scènes de vie du quotidien. Mais il y a aussi ces images qui vont s'apparenter presque à du portrait, comme dans ces photos en plein pied où on voit, et je crois que c'est un cadrage que tu aimes beaucoup, l'animal qui vient sur toi, là, un lion dans toute sa majesté. Pourquoi est-ce que tu aimes particulièrement ce cadrage, toi ?
Alors moi, pour moi, ça fait partie de mes cadrages préférés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'animal qui est seul dans mon objectif. Là, pareil, c'est une photo plein cadre. Hein. J'ai pas ni recroppé, ni j'ai rien. Voilà, j'ai juste eu ça dans le viseur quand j'ai pris la photo. Voilà. Hein. Donc, quand il y a un gros prédateur comme ça qui vous arrive dessus en vous regardant droit dans les yeux, ou droit dans l'objectif, si je peux dire, on se sent tout petit. Et surtout que là, il venait vers moi en rugissant. Et c'était au coucher du soleil, il y avait une lumière de fou. Je me rappelle encore ça tous les copains qui sont là, qui doivent regarder l'interview, ils étaient là aussi, il y en a beaucoup qui ont vécu ce moment, on tremblait, quoi, parce que ils rugissaient, la savane elle tremblait comme je l'avais jamais entendu, et en plus de ça ils me regardaient droit dans les yeux, et je me rappelle même j'avais une petite larme dans l'œil quand parce que je savais que je vivais un moment fort. Et voilà, en fait, c'est surtout le fait que voilà, l'animal vous regarde et on a vraiment l'impression qu'on est la proie, quoi. Donc c'est prenant comme scène, très prenant.
Ouais, là, on le voit vraiment. Moi, c'est le mot de majesté qui me revient. Il est extrêmement impressionnant, avec toute la richesse des détails dans la crinière qu'on voit un petit peu au vent. C'est vraiment une image qui est très impressionnante. On va voir aussi une autre image. Là, avec un petit peu le même cadrage, mais avec un bokeh au premier plan, comme si tu étais à plat ventre. Alors, j'imagine que c'est déconseillé quand on est dans la savane d'être à plat ventre dans la nature. Comment est-ce que l'image a été prise là pour avoir cet effet?
Ça, c'est une photo que j'ai réalisée avec un système qui est devenu interdit. Hein, c'est ce que je te disais un peu avant. Là. En fait, c'est l'intérêt dans la photo animalière, c'est d'être, comme dans la photo, je pense, des humains, c'est d'être au même niveau que le sujet. Voilà, l'intérêt, c'est vraiment d'être au même niveau. Et là, on a l'impression que je suis allongé sur l'herbe, mais sauf que je suis sur une planche. Alors, on appelle ça le système de la planche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on enlève la portière où la portière, elle se transforme en plateforme qui va nous rabaisser encore plus au niveau du sol. Et c'est grâce à ce genre de truc qu'on arrive à faire ce bokeh et qu'on a l'impression qu'on est allongé dans l'herbe. Ouais. Donc là, la léoparde, elle est un petit peu plus haut que moi. Ça aide aussi, hein, parce que du coup, là, c'est pas cette photo là, elle est pas issue de cette image, mais bon, c'était la même léoparde, hein, c'est Cabosso. Tout le monde la connaît, enfin, la connaissait peu cher parce qu'on a plus trop de nouvelles. Mais voilà, donc c'est ce système alors qui, pour moi, je trouve, fait toute la différence dans les photos parce que ça apporte vraiment un vrai plus en termes de résultats, quoi. Je trouve que c'est, voilà.
Et le procédé est interdit, pour quelle raison?
Alors oui, ben, c'est comme tout, hein, voilà, il y en a qui ont abusé, hein, parce que le léopard, le problème, c'est qu'il ne va pas sauter dans la voiture, malgré que là, on pourrait croire, hein, parce que là, dans ce cas, moi, j'avais la léoparde à 10 mètres, hein, sur la photo, on le voit, c'est une photo, la photo making-of, c'est réalisé avec une GoPro, donc elle a tendance à éloigner le fond, mais la léoparde, elle est à 10 mètres. Et en fait, ben elle se rapproche. Hein. La léoparde, là, dans cette scène, elle m'est passée à 30 cm de l'objectif. Hein. Donc, il y a les respectueux qui arrêtent, qui font stop, parce que là, on va franchir des limites et il ne faut pas. Hein, parce que après, il ne reste plus qu'à un peu l'appeler, la léoparde. Hein. Si je l'avais appelée ou lui a fait un petit clinquement des doigts, là, claquement des doigts pour la faire agir, ben elle serait venue. Hein, donc. Il y en a qui ont abusé. Hein. Le léopard, il a interagi avec le photographe. Et ça devient dangereux parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. L'animal, ça reste un animal sauvage. Il peut à tout moment sauter dans la voiture et blesser ou tuer même le photographe. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est l'animal qui va en tirer les pots cassés et il va être tué. Donc, le parc a dit stop, on arrête cette pratique. Elle est trop... les gens, ils ne respectent plus rien.
Ouais, ça risquait d'être trop intrusif.
Voilà. C'est trop intrusif, du coup, on ne peut plus pratiquer ce truc.
Tu donnais le nom de la léoparde, là on va voir une autre image avec un animal assez, assez célèbre, je crois, toujours dans le portrait. Les animaux, souvent, vous connaissez leur prénom. Là, celui-ci s'appelle Scarfez, tu as donné le prénom de la léoparde. ils sont identifiés. Il y a une identification véritable.
En fait, il reste tellement peu de prédateurs, parce qu'on va pas quand même mettre un nom aux herbivores, mais tous les prédateurs, il en reste tellement peu qu'ils ont quasiment tous un nom. Pas les cervales, hein. Les cervales ils ont pas, ou les caracals encore moins, mais les lions, les guépards, les léopards ont tous plus ou moins un nom. Alors là, c'est Scarface. Alors, il est. Pourquoi Scarface? Parce qu'il a cette cicatrice sur l'œil. C'est une cicatrice qui a jamais cicatrisé, hein, qu'il a gardée pendant des années. Ben, je crois depuis le début, hein, quasiment. Peut-être pas au début. Je crois qu'il a eu, à ses 9 ans, il me semble. Enfin, je sais plus. Mais donc, du coup, il était facilement reconnaissable. Donc, qui dit reconnaissable, les gens voulaient voir Scarface parce que il est emblématique. Hein, c'est un peu aussi le méchant dans Le Roi Lion, donc tout le monde voulait voir Scarface, donc c'était le lion le plus connu au Maasai Mara. Il a vécu 14 ans, il est mort le 11 juin 2021, il avait 14 ans, et il arrive 8 jours avant que j'aille le voir pour une dernière fois, mais il était vieux, alors il est mort de vieillesse, hein. c'est rare chez les lions. Pour la petite histoire, le lion qui me vient de face sur la photo précédente, lui, il a été mort, il est mort tué par d'autres lions. Ouais. Lui, il est mort de vieillesse. Et voilà, c'est un portrait classique, hein, du piqué, du bokeh, et en plus de ça, c'est Scarface, donc voilà, une photo.
Et justement, on va voir une autre image, mais pour faire le portrait d'un animal sauvage, qu'est-ce qui fait qu'un portrait est pour toi réussi? Est-ce que c'est la richesse des détails? Est-ce que
alors il y a plusieurs trucs, hein. Là, voilà, c'est le petit guépardo, donc c'est déjà super beau comme animal. Hein.
Ouais.
Donc oui, pour moi, ce qu'il faut, c'est que ce soit net, hein, parce que si c'est prêt, il faut que ce soit net. Bon, là, la mouche, elle est floue parce que je suis au 600. Bon, cette photo, elle est un peu recadrée, recroppée, parce que sinon, il serait tellement prêt, je crois qu'il aurait la tête dans l'objectif. Donc non, mais voilà, ce qu'il faut, c'est avoir une émotion. Là, on voit une symétrie. Par rapport au centre de son visage, j'aurais pu couper. Alors, il y en a beaucoup qui font ça aussi, couper la tête et garder qu'un côté. Mais moi, voilà, je préfère garder les deux yeux. Et voilà, ce qui fait qu'un portrait fonctionne, c'est l'expression de l'animal. Là, on voit qu'il a du sang sur ses babines. Donc, on s'imagine qu'il s'est bien régalé, qu'il a bien mangé. Si on voit bien la mouche qui est sur la truffe, et puis on peut voir aussi le 4x4, hein, dans lequel je suis, dans son regard, en zoomant un peu.
Effectivement, si on regarde attentivement dans la pupille, on voit le reflet.
On voit des 4x4. Mmh. Et puis c'est une photo qui m'a bien plu parce que c'est un safari que j'avais partagé avec mon fils l'année dernière et qui a 10 ans, et donc voilà, pour moi elle me rappelle beaucoup de souvenirs, quoi, cette photo. Donc voilà. Ouais. Voilà.
Il y a dans la volonté comme ça de témoigner de la beauté de sa nature, cette nature, il y a ces images, mais il y a également témoigner de cet habitat qui recule, qui est un habitat fragile et qui recule devant les avancées des villes. On le voit bien avec cette photo, qui est une photo qui quand même a là une valeur de témoignage aussi. Tu l'as intitulée en plus « La dernière corne ». Est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
Alors voilà. Alors tu vois, contrario à ce que je te disais en début d'émission là, c'est que c'est une photo que j'avais en tête. Hein. Bon, je l'ai déjà vue quelque part. Hein. C'est pas une photo que j'ai créée de moi de toute pièce. J'avais déjà vue et je voulais la faire. Donc j'ai contacté mon tour opérateur pour lui dire voilà, je voudrais aller au parc national de Nairobi pour essayer de faire cette photo. Et ni une ni deux, il m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu viens un jour avant les safaris au Maasai Mara et puis on essaiera de la faire. Et puis on a passé l'après-midi, hein, parce que c'est un après-midi, c'est tout. Et puis j'ai réussi à la faire. Donc j'étais hyper content parce que ce n'est pas évident. Hein, là, il fallait trouver un rhino et puis aligner le rhino dans cette ville. Donc voilà, on a cassé les pieds au guide pour. Il comprenait pas, le guide Péjard, mais encore avec ce rhino là, il comprenait pas pourquoi on était là à essayer de faire ça, parce que là, il disait ouais, mais il y a la ville. Je dis, non, mais je veux qu'il y ait la ville.
Ouais.
Et puis j'ai réussi à la faire. Donc j'étais super content parce que voilà, j'ai réussi à la faire. Alors c'est pas tout le temps le cas, hein, mais là ça a fonctionné. Bon, il y a elle est critiquable, hein, on pourrait en trouver des défauts, mais bon voilà, la corne. Elle est avec la tour là. Et on voit bien que la tour.
D'accord, elle répond
même,
un petit peu.
Ouais. Voilà, elle a la même. Elle met la ville en appui, quoi. Et du coup, ben voilà. Après, un traitement un peu particulier, sépia gris, qui accentue cet effet fin du monde, hein, parce que voilà, il y a presque plus de rhino. C'est un peu le message qu'elle veut dire, cette photo. Il y a presque plus de rhino. Et voilà, la ville prend le dessus sur l'espace naturel, quoi. Voilà. Donc, voilà.
Et ces photos aussi, ça témoigne de la beauté de la nature, ça témoigne aussi de sa fragilité, ça témoigne aussi parfois de son mystère. On va terminer l'interview avec un animal rare que tu as été particulièrement heureux de croiser, c'est le caracal. On a choisi, tu avais quelques images, on a choisi ensemble cette photo que j'aime beaucoup, où l'animal garde justement tout son mystère, on le voit pas intégralement, on le devine, et sa poésie. Est-ce que tu peux nous parler de cette image?
C'est ça. Ben alors, pour un photographe animalier qui est passionné de l'Afrique, le caracal, c'est un peu le caragral, on l'appelle. Hein. Tout le monde l'appelle comme ça parce que il est dur à voir. Hein. C'est pas, on le voit pas tout le temps. Hein. C'est un animal nocturne, donc on le voit pas. Enfin, moi, c'était la seule fois que je l'avais vu. Hein. Et voilà, je l'ai vu. Alors ça a duré, voilà, pareil, trois minutes. Hein. Il était sur le côté de la route. Hein. Il a traversé la route et puis hop, il est allé dans ses herbes. Et puis voilà, c'est. Alors les autres photos, elles sont ce qu'elles sont, mais je trouve qu'elles apportent rien parce qu'elles sont pas vraiment réussies. Par contre, celle-ci, elle reste encore, comme tu dis, encore une part de mystère hein, de cet animal fantôme où on voit que ses bouts d'oreilles là, ces plumes qui dépassent là en dessus les herbes. Et tant mieux parce qu'il m'a fait ce cadeau, je l'ai vu, voilà, j'ai fait cette photo. Bon, j'espère en faire une autre un jour de cet animal. Mais voilà, c'était un beau cadeau parce que photographier le caracal, c'est pas, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, quoi, voilà.
Ouais, et puis les oreilles en plus, là, le rendent quand même très identifiable, cet animal.
Ouais. Ouais, on le voit juste dépasser ses oreilles, voilà, il est reparti comme il est venu. Un fantôme, quoi, voilà, comme un fantôme.
Bon, en tout cas, moi, je suis très heureux qu'on termine avec cette image qui est pleine de mystère et de poésie, qu'on termine l'interview, mais pas l'émission, puisqu'on va avoir la chronique de Frédéric. Et puis, on te retrouve en fin d'émission pour ta recommandation. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé ces images qui sont impressionnantes et qui témoignent quand même d'une nature qu'on a tendance à oublier, qui semble est très proche parce qu'on a tous des lions dans notre imaginaire et pourtant quand même très très lointaine aussi.